nous montre l'état de l'église de Jérusalem à cette époque-là, où nous est dit, elle était en paix, voilà, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, et donc ça dépasse Jérusalem. Mais elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais que nous puissions nous intéresser ce matin à l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Il nous est parlé ici qu'elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous savons combien le Seigneur a insisté avant qu'il monte au ciel sur l'action du Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu, au milieu de son Église. Lorsque nous lisons les derniers enseignements de Jésus, lorsqu'il est dans la chambre haute, il va parler du Consolateur, il va parler du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et même au moment de regagner le ciel de gloire, il dira ceci, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, alléluia, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque nous feuilletons le livre des Actes des Apôtres, nous découvrons combien est importante l'action du Saint-Esprit. Et notamment lorsqu'on considère la personne de l'apôtre Pierre, qui était un homme qui pouvait être rempli d'enthousiasme à l'égard du Seigneur, mais qui a fait défaut par la faiblesse de son caractère. Nous voyons ensuite, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, quelle différence il y a dans le ministère de cet homme. Un homme qui n'est plus timide, un homme qui ne regarde plus à l'apparence des hommes, un homme qui ne fait plus qu'à des dangers, mais qui est rempli du Saint-Esprit. L'Écriture nous dit même à plusieurs reprises, lorsqu'il prend la parole, Pierre rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous découvrons comment cette jeune église de Jérusalem, qui était toute jeune, a pu résister par l'action du Saint-Esprit. Voyons que cette action, elle est là. Il nous est parlé d'une paix qui était là. Il nous est parlé d'une église qui s'édifiait, d'une église qui apprenait, qui construisait, d'une église qui marchait, d'une église qui s'accroissait, c'est-à-dire qui gagnait des âmes. Et tout cela était fait aussi par l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on cherche en grec le mot qui correspond, c'est un mot bien connu pour ceux qui connaissent les Écritures, c'est le mot paraklesis, qui a donné paraklète, etc., le consolateur. J'ai cherché dans la version Chouraki, dans la traduction Chouraki, il nous est dit, au lieu de dire par l'assistance du Saint-Esprit, il nous est parlé du réconfort du souffle sacré, du réconfort du souffle sacré. Et cela nous parle, bien sûr, nous allons le voir, de consolation, d'encouragement, d'assistance, il est vrai. Mais je voudrais insister là-dessus, sur le fait que cette assistance, cette action du Saint-Esprit, jamais ne sera désincarnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même que s'il y a le souffle béni du Seigneur, le Saint-Esprit agira toujours avec des hommes et des femmes qui vont être des objets de bénédiction, des objets d'édification, qui vont être des objets de consolation vis-à-vis du peuple de Dieu. Parfois, nous pouvons avoir cette considération que comme il s'agit du Saint-Esprit, Seigneur, tu lui parles, Seigneur, tu fais ton œuvre. Et c'est vrai que l'œuvre du Saint-Esprit peut se faire directement dans un cœur. Le Saint-Esprit nous parle, mais même ce matin, au travers des chants qui étaient inspirés, le Seigneur s'est servi de notre frère et de notre sœur pour nous édifier. Alléluia, amen. Et lorsque nous entendons un don spirituel, c'est un frère et une sœur qui quand même expriment la pensée de l'Esprit. Et nous voyons que l'action du Saint-Esprit n'est jamais désincarnée. C'est-à-dire que Dieu veut utiliser des hommes et des femmes afin que, remplis du Saint-Esprit, ils puissent adresser à l'Église un encouragement, une exhortation, une consolation qui va permettre à son peuple d'aller de l'avant. Alléluia, amen. Ça veut dire que cela nous engage tous. Ça veut dire que cela doit produire dans nos cœurs et dans nos vies une sainte résolution pour dire, Seigneur, Eh bien, comme l'apôtre Paul, je sais maintenant qui je suis, qui tu es, tu m'as sauvé par grâce, tu es mon sauveur, mon Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Alléluia ! Je crois que c'est les deux questions les plus importantes, eh bien, dans la vie d'un chrétien. Seigneur, qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu que je fasse ? Je sais ce que, eh bien, Seigneur, tu es pour moi, tu es mon sauveur, mais par rapport à toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alléluia ! Amen ! Non pas qu'on est sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour servir le Seigneur. Alors, je voudrais que nous allions, pour continuer et avancer, eh bien, dans tout cela, on va parler de cette consolation, employer plusieurs mots, encouragement, consolation, exhortation, mais premièrement, le ministère de consolation du Seigneur Jésus lui-même. Et pour cela, on va aller dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, c'est un texte que vous connaissez fort bien, et c'est le début du ministère du Seigneur, et regardez ce qu'il nous est dit. Je voudrais qu'à chaque fois vous fassiez, nous fassions ensemble la relation entre la consolation et l'action du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il nous est dit. Chapitre 4 et verset 14, il nous est dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Vous avez remarqué, au verset 14, il nous est parlé de Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, le Seigneur lit ce texte qui correspond à ce qu'il est. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Pourquoi ? « Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et le verset 21 ajoute ceci: « Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et nous disons « Alléluia ! Merci Seigneur ! Nous ne sommes pas seuls !» Jésus est venu, alléluia, pour faire, eh bien, cette œuvre de consolation. Dans l'Évangile selon Jean, je vous en parlais tout à l'heure, au chapitre 14 et au verset 19, lorsque le Seigneur annonce la venue de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, il parle d'un autre consolateur. S'il dit qu'il y a un autre consolateur, cela signifie qu'il est lui-même un consolateur. Alléluia, il est celui qui console. Et qu'est-ce que c'est le rôle d'un consolateur ? Eh bien, le rôle d'un consolateur, c'est de se tenir avec celui qui est seul. Quand j'ai quelqu'un qui me console, ça veut dire que je ne suis plus seul. Un des drames de nos sociétés modernes, c'est la solitude. Vous voyez ? Il y a quelques temps en arrière, on a eu notre sœur, vous vous souvenez, Lydie, hein, tu t'en souviens, Monique, qui a été éloignée du quartier, qui s'est retrouvée dans un quartier où elle ne connaissait personne. Et la solitude était tellement grande, l'éloignement, il n'y avait pas de bus, pas de tram, etc. Elle dit, mais je ne comprends pas cette société. Je dis bonjour aux gens et on ne me dit pas bonjour. C'est une grand-mère, une togolaise. Alors, ses enfants, voyant que ça n'allait pas du tout, passaient un coup de fil, ils se sont entrepris. Et puis, elle est retournée au pays. Et et de temps en temps, on a des nouvelles. Mais c'est dramatique. Eh bien, de se dire, eh bien, personne ne pense à moi, personne n'intervient pour moi. Mais ici, l'Écriture nous dit clairement que le rôle du Seigneur a été, eh bien, d'accompagner, d'être avec celles et ceux, eh bien, qui sont seuls, les pauvres, les cœurs brisés, les captifs, les aveugles, les opprimés. Tous ceux qui expérimentent cette solitude ne sont plus seuls parce que Jésus est là. Alléluia. Moi, j'aime bien mon nom. Je ne sais pas, Sébastien, si tu aimes ton prénom, mais on aura un nom nouveau dans le ciel. Moi, c'est Emmanuel. Et ça veut dire Dieu avec nous. Alléluia! Mais c'est le nom du Seigneur tel qu'il a été prophétisé par Ésaïe, repris dans Matthieu 1, 23. Mais ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut dire que tu n'es plus seul. Alléluia! Et cette consolation, mais elle fait partie de notre salut. En faisant quelques recherches, eh bien, j'ai appris que les anciens juifs, les anciens docteurs de la loi à l'époque du Seigneur, nommaient le consolateur, le Messie qui viendrait. Ils étaient dans l'attente, ils étaient dans leur solitude. Ils ne savaient comment penser leur relation avec Dieu. Ils se sentaient vides et sans espoir. Et ils attendaient celui qui remplirait leur vie. Nous l'avons rencontré. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui a porté nos péchés à la croix du calvaire. Celui dont le sang a tout effacé. Quel que soit notre passé, quels que soient nos péchés, le Seigneur les a portés à la croix afin que nous soyons libérés. Et l'Écriture nous dit que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et Romains 8, 38 et 39 nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia! Mais c'est glorieux ça, Catherine. Amen. Alléluia! Parce que le Seigneur est là. Amen. Et il y a quelque chose en réalité d'encore plus merveilleux, c'est que ce n'est pas quelque chose, j'allais dire, une espèce de pommade qu'on se met comme ça, c'est réel. Jésus, et je voudrais peut-être le dire à un frère, une sœur, peut-être un bien-aimé qui est en train de découvrir le message de l'Évangile, Jésus est appelé, Ésaïe chapitre 53 verset 3, l'homme de douleur et de souffrance, c'est-à-dire qu'il connaît tes souffrances, il connaît tes douleurs, alléluia, et il a la possibilité et la volonté de t'en libérer. Alléluia. Amen. Mais nous voulons bénir le Seigneur d'avoir notre Dieu, de nous avoir donné un tel sauveur. Mais je voudrais aller plus loin en vous faisant remarquer et en revenant à la pensée que nous développions que cette consolation s'incarne, c'est que Jésus est vraiment venu sur cette terre. Dieu s'est fait homme. Alléluia. Et l'Écriture nous l'affirme. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il est venu sur cette terre. Cette consolation, c'est pas simplement un projet. C'est même pas une déclaration comme cela. Au travers de la bouche d'un prophète, Dieu s'est fait homme. Alléluia. Et ça doit me parler. Ça veut dire que nous allons y revenir. Mais si Dieu lui-même s'est fait homme, afin qu'il devienne le consolateur, qu'il devienne celui qui soutient, celui qui est dans la détresse, celui qui est découragé, qui est fatigué. Mais moi maintenant, qui t'ai rencontré Seigneur, qui t'ai accepté comme mon sauveur et mon Seigneur, Seigneur tu m'as rempli de ton Saint-Esprit, de ce consolateur, mais moi aussi, je dois devenir un frère, et je parle pour les sœurs, une sœur, qui va être un sujet de consolation. Alléluia. Amen. Et c'est cela aussi, l'action du Saint-Esprit. En réfléchissant au mot consolation, je me suis souvenu que la console, vous connaissez la console ? La console, au début, c'est un meuble. Une console, peut-être que vous en avez à la maison. Une console. Voyez, et ça nous aide à nous déshabiller, à nous habiller, ou on laisse un objet, c'est la console. Tu n'es pas seul pour les usages de la vie quotidienne. Voilà, console. Voilà. On parle même maintenant, depuis plusieurs années, d'une console vidéo. Ah tiens, pour te consoler, pour que tu ne te sentes plus seul, tu as des jeux vidéo, tu as une console vidéo. Allez, écoute, tiens, prends ça. Tu me fatigues, les parents, vous connaissez ça ? Voilà. Récemment, j'ai entendu un reportage sur l'intelligence artificielle et je me suis dit, Seigneur, où va-t-on ? Et c'était un reportage sur la radio France Info, j'étais en voiture, je crois, ou je ne sais plus. Et j'ai écouté cela. Et en Corée du Sud, vous savez, c'est le pays de Samsung, tout ça, c'est les nouvelles technologies poussées à outrance. Et ils ont décidé, il y a un service particulier qui reprend au travers des enregistrements vidéo ou des enregistrements audio, la voix d'un défunt. La voix d'un défunt. Et jusqu'à présent, ils avaient développé cela, c'est-à-dire que vous pouviez téléphoner à un certain numéro et si vous aviez perdu, par exemple, quelqu'un de votre famille est décédé, vous pouviez lui parler. Et la voix répondait. Bizarre, hein ? Et la dernière expérience qui trouble énormément, c'était une maman qui avait perdu sa petite fille à l'âge de 7 ans. Et on l'a équipée avec des lunettes, c'est le métaverse. Vous voyez ? On l'a équipée avec des lunettes, on lui a mis une combinaison et elle s'est mise dans une salle particulière
à parler avec sa petite fille. On avait repris des vidéos. Ce qui était troublant, c'est qu'avec tous ces capteurs, etc., elle disait, est-ce que je peux te toucher ? Consolation. Notre monde cherche à être consolé de toutes sortes de choses. Je me souviens que le grand auteur français que vous connaissez tous très bien, Victor Hugo, a été inconsolable à la mort de sa fille Adèle. Et pour la retrouver, alors qu'il connaissait les Écritures, mais pas suffisamment, eh bien, il s'est dirigé vers le spiritisme. Et combien d'hommes et de femmes ignorent qu'il y a un consolateur ? Et je voudrais te dire ceci, mon ami, et peut-être toi qui t'approches du Seigneur, cette consolation, ne la cherche pas dans les vidéos, sur un écran, dans un programme ou dans quelque intelligence artificielle que ce soit, mais Jésus veut être ton consolateur. Alléluia, il veut te relever. Alléluia. Je me souviendrai toujours de ce service de baptême, de cette jeune femme qui venait, eh bien, c'était dans la ville de Jarnac, qui venait de rencontrer le Seigneur, elle s'est fait baptiser, et elle nous a dit ce qui se passait. Eh bien, elle avait été frappée, marquée par le décès de son père. Elle nous disait tous les soirs qu'elle allait dans le grenier pour parler avec son père, pour prier son père. Et lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, eh bien, elle a dit, mais j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai complètement rompu avec cela parce que maintenant j'ai un Père céleste, alléluia, que j'ai trouvé en Jésus et il me console, alléluia, amen, d'une véritable consolation. Et je voudrais dire, eh bien, ce matin, eh bien, que ton Sauveur est ressuscité, ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant, alléluia, et qui est ressuscité au siècle des siècles et qui veut agir dans ta vie, à lui soit toute la gloire, alléluia. Mais j'en reviens pour dire quand même que le Seigneur Jésus est lui-même devenu un simple homme. Et en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, ça doit nous faire réfléchir. Parce que ça nous montre que l'encouragement, l'exhortation, c'est quelque chose qui doit être trouvé dans l'Église. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'au travail, on se fasse reprendre lorsque, et puis sans ménagement, au bureau où vous voulez, à la fac, parce que, voilà, on a mal fait quelque chose. Mais ici, dans l'Église de Christ, c'est différent quand même. Non pas que l'erreur, le péché ou la faute est toléré, loin s'en faut, mais il y a quand même un état d'esprit qui est là. Celui de voir la victoire en Jésus, alléluia, de ne mettre personne au rebut, et de dire, Seigneur, eh bien, tu veux que nous soyons, eh bien, semblables, alors vous connaissez bien ce personnage, eh bien, Barnabas, l'exhortation dans l'Église. Regardez, on va lire dans Actes au chapitre 4 et au verset 36. Vous connaissez tous Barnabas ? Vous avez déjà mangé avec lui ? Non ? Voilà. Barnabas, c'est un homme qui était tellement rempli de cette idée de l'exhortation que regardez ce qu'il nous est dit au chapitre 4 et au verset 36. Il nous est parlé de Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation. Fils de consolation, c'est le même mot, hein, l'encouragement, la consolation. Lévite, originaire de Chypre, et il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et au chapitre 11 et au verset 24, on parle de lui encore en d'autres termes, puisqu'il nous est dit, c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Un homme qui est appelé fils d'exhortation et qui est plein du Saint-Esprit, il a tout compris. Il vit ce que le Saint-Esprit, veut nous faire vivre également. Un homme qui console, un homme qui encourage. Je voudrais, sans m'étendre trop, vous faire remarquer à quel point il tenait l'Église en haute estime. C'était un homme de la tribu de Lévi, un homme dont la tribu dans l'ancienne alliance était consacrée au service de Dieu. Il avait un champ alors qu'il était chypriote. Il avait un champ qui se trouvait dans la Judée.
C'était un champ hérité de ses pères de génération en génération, la terre sainte d'Israël. Et voici que lui, il vend ce que s'il a hérité de ses pères de génération en génération pour l'apporter aux apôtres afin que l'Église, eh bien, soit édifiée, soit encouragée, eh bien, par ce don, parce qu'il y avait des pauvres, il y avait toutes sortes de choses et de besoins dans les premiers temps de l'Église. Et nous voyons que cet homme a compris, mais merci Seigneur pour mes ancêtres, merci Seigneur pour l'annonce, merci parce que Seigneur j'appartiens à ce peuple, mais maintenant Seigneur j'appartiens à Jésus-Christ, j'appartiens à l'Église de Christ, alléluia, je suis un homme de la nouvelle alliance, alléluia, et il apporte au pied des apôtres ce qui pourrait être un sujet de consolation et de réconfort envers ses frères et sœurs. Vous savez que cet homme, tout à l'heure on a parlé que l'Église s'édifiait, cet homme était un bâtisseur, quelqu'un qui édifie, parce que quelqu'un qui console, c'est quelqu'un qui bâtit, c'est quelqu'un qui construit, c'est pas quelqu'un qui casse, voyez. Il y a deux personnages essentiels, enfin deux personnages, oui, qui sont importants dans les Écritures notamment, et qui vont être au contact de Barnabas. C'est l'apôtre Paul et Pierre. L'apôtre Paul, on le connaît, parce que toutes les épîtres nous apprennent à marcher dans les voies du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire la foi en Jésus-Christ? L'épître aux Romains. Je voudrais profiter de ces vacances-là pour relire l'épître aux Romains. Soulignez les passages, apprenez-en par cœur. Ça va vous faire du bien. Mais c'est extraordinaire l'épître aux Romains. Lorsque Martin Luther l'a lu, c'est la réforme qui est venue. Et encore, on est héritier de tout cela. Alléluia. Et puis un autre personnage important qui a été au contact de Barnabas, c'est Marc qui a écrit l'évangile selon Marc. Voilà, l'évangile selon Marc. Barnabas, lui, il n'a rien écrit. Alors peut-être qu'on possède des écrits, on se dit, est-ce que c'est apocryphe ou pas des épîtres? Mais en tout cas, elles ne sont pas canons, elles ne sont pas dans le Nouveau Testament. Lui, de Barnabas, il y a rien de factuel, rien de scripturaire qui reste de son passage sur cette terre concernant Barnabas. Cependant, s'il n'avait pas été là, moi j'ai des doutes par rapport à la suite du ministère de Paul, par rapport à la suite du ministère de Marc. Vous savez que quand Paul s'est converti et qu'il a quitté Damas parce qu'il était persécuté pour sa foi, vous vous souvenez, et qu'il se rend à Jérusalem, personne ne croit que ce Saul de Tarse-là, il s'est vraiment converti. Il n'y en a qu'un seul qui y croit. Eh bien, c'est Barnabas, vous pourrez le relire, ça. Je reprends mes notes, tac-tac. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 26 et 28. Et c'est même c'est encore Barnabas qui le remettra en selle, Actes 11, 26, pour édifier l'église d'Antioche. Un seul a cru à l'œuvre de Dieu. Et puis vous vous souvenez que Dieu avait fait dans le cœur de Saul de Tarse. Et puis vous vous souvenez également du cas de Marc, qui était le cousin de Barnabas. Alors, il y a eu un échec dans la vie de Marc parce qu'il fait partie de la première mission de Paul et de Barnabas et puis c'est trop dur, il s'arrête. Il rentre chez lui, voilà, il rentre à la maison. Et lorsque Barnabas, pour le deuxième voyage missionnaire, dit à Paul, eh bien, ça serait bien qu'on reprenne Marc. Il n'est pas d'accord, Paul. Il dit non, on ne va pas prendre celui qui nous a abandonnés, etc. Non, moi je ne le prends pas. Et l'Écriture nous dit que leur désaccord a été si fort qu'ils se séparèrent. Et Paul est parti avec Silas et ils ont continué. Et Barnabas, lui, a repris Marc et il est retourné en Chypre, là où il a repris, là où il y avait eu le lieu de l'échec. C'est-à-dire, et je me dis, mais est-ce qu'il faut attendre que les gens aient changé pour les aimer? Est-ce qu'il faut attendre que les gens aient fait de grands progrès pour croire que le Seigneur va les utiliser? Et peut-être que Barnabas a dit à Paul, écoute Paul, très bien que le Seigneur te bénisse, va avec Silas, c'est très bien. Mais moi je reprends Marc, souviens-toi quand personne ne croyait en toi, quand personne ne croyait que tu avais rencontré authentiquement le Seigneur. J'étais là pour t'introduire.
je vais continuer avec Marc. On n'a pas d'écrit de la part de Barnabas. Il n'y a pas de choses voilà concrètes de restes archéologiques concernant d'écrits, etc. Mais c'est un homme qui a fait du bien à l'Église. Il a construit, il a édifié. Alléluia. Je prie afin que nous soyons nous aussi des Barnabas. Alléluia. Et même si nous voyons quelqu'un qui n'a pas été forcément à la hauteur dans une situation, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été à la hauteur que le Seigneur l'a abandonné. Moi, je fais partie de cela. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on continue. Vous êtes toujours là. Voilà, gloire à Dieu. Vous avez l'air conditionné, vous êtes bien là. Hein. Voilà, ici, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Hein. Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais aussi que nous puissions voir dans un autre texte de la parole de Dieu. Alors, on va aller dans le livre des Actes, au chapitre 13 et au verset 15. Vous voyez, on reste dans les Actes. Hein, et on reprend toujours ce mot, acte 13 et le verset 15. On est dans cette première mission dont je vous ai parlé tout à l'heure, Paul et Barnabas. Après être allés en Chypre, ils vont à Paphos. Ils vont en Antioche de Pisidie, donc c'est la Turquie actuelle, c'est l'Asie mineure. Et il nous est dit ceci, on mesure pas trop hein, quand même les distances, c'est rapidement dit, mais prenez une carte, figurez-vous que tous ces voyages se faisaient à pied, qu'il y avait toutes sortes de risques à cette époque-là. Bien sûr, il y avait la paix romaine, mais il y avait des voleurs. Il y avait des brigands, c'était toute une aventure. Et il nous est dit ceci au verset 14, donc 13-14, acte 13-14, il nous est dit de Perge, ils poursuivirent leur route et ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, ils » parler. Et ici, on retrouve le mot paraclésis, le mot consolation, exhortation. Alors, lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, Seigneur, eh bien, le mot qui évoque ici la consolation, eh bien, c'est le mot exhortation. Eh bien, c'est faux, c'est pas ça. Et lorsque on lit attentivement la parole du Seigneur, alors attendez, moi je suis en train de me mélanger les pinceaux là, j'ai des notes dans tous les sens, alors attendez, voilà. Est-ce que ça t'arrive Sébastien? Non, toi tu es un homme organisé, hein. Voilà, hein. Voilà, à Rouen ils sont, c'est des Normands, hein. C'est les gens du Nord, voilà. Et donc acte 13-15, il nous est dit ceci, donc si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Dans la parole de vie, c'est traduit ainsi. Est-ce que vous voulez dire quelques mots aux gens pour les encourager? Dans la Louis II 21, il nous est dit des mots d'encouragement. C'est-à-dire, en fait, le mot exhortation, c'est logos, et adresser, c'est le mot paraclésis. C'est-à-dire des mots qui apportent la consolation. Des mots qui consolent, des mots qui encouragent. Et lorsque je lis la fin de la prédication de l'apôtre Paul, si vous le désirez, vous pouvez lire acte 13, 16 à 41, vous le lirez, on ne va pas le faire maintenant, mais c'est la première prédication de l'apôtre Paul. Vous la relisez et vous trouvez la première prédication que Paul a prêchée. Elle est notée, elle est écrite, elle est là, elle est dans la parole de Dieu. Et les conséquences de ça, eh bien, nous les avons dans acte 13, au verset 42, il est dit « Lorsqu'ils sortirent de la synagogue, des juifs, les gentils, c'est-à-dire les païens, les prièrent de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. » Vous savez, quand à l'issue d'un culte ou d'une réunion, il y a des frères et des sœurs qui viennent nous dire « Ah, c'était bien, on a envie encore d'en savoir plus, on est content. » Voilà, oui ou non, hein. Voilà, on dit, mais, Seigneur, merci parce que tu m'as utilisé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et dans acte 13, verset 48, là, donc on est toujours là, il nous est dit que les païens se réjouissaient en entendant cela, et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Et je voudrais que nous puissions comprendre ici, c'est que le but de la parole de Dieu est quand même de nous encourager, alléluia, de nous faire aller.
L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Alléluia. Et lorsque, ces hommes ont demandé à Paul, d'apporter la parole, ils lui ont dit, mais dis-nous des mots, apporte-nous une parole qui nous encourage. Il faut se remettre dans le contexte. On est avec ces anciens d'Israël, ce peuple qui attend le salut et qui ont entendu qu'il se passe des choses, qu'on prêche un certain Jésus, mais est-ce qu'il faut y croire, est-ce qu'il ne faut pas y croire? Et lorsque l'apôtre Paul, et vous voyez comment est bâti sa prédication, il prend les textes de l'ancienne alliance, ceux qu'ont annoncé la loi et les prophètes. Il te dit, mais on n'est pas justifié par la loi, on n'est pas sauvé par la loi, parce que la loi nous renvoie à nos péchés, à notre faiblesse, à notre état de péché et à l'état de sainteté de Dieu. On est jugé pécheur d'avance, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Oui, mais la loi et les prophètes rendent témoignage à la justice de Dieu, c'est-à-dire au salut que Dieu donne au travers de Jésus, lequel nous justifie de notre vaine manière de vivre. Alléluia. Lequel a payé notre dette à la croix du calvaire afin que nous soyons sauvés. Et il est en train de détailler, d'expliquer tout cela. Il dit au travers de David, regardez les psaumes de David, il annonce la résurrection, il annonce les souffrances du Seigneur, psaume 22, etc. Et il est en train de fouiller, de décortiquer tout cela. Il leur dit, mais je vous annonce ce que je vous annonce. C'est pas une nouvelle qui va vous enfoncer, c'est pas une nouvelle qui va vous arrêter, c'est pas une nouvelle qui va vous décourager, mais c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et l'écriture, c'est cela, mon frère, ma sœur. Et lorsque je lis, par exemple, dans Actes au chapitre 13 et au verset 38, il est dit, « Sachez donc, homme frère, que c'est par lui, par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit en lui est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. » Et il donne un avertissement, « Attention à ne pas vous moquer de cela parce que ça vient de Dieu. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mais ça veut dire que lorsque je lis la parole de Dieu, j'ai besoin aussi de me mettre dans un état d'esprit qui fait que je dois m'attendre à ce que le Seigneur m'encourage. Certains, lorsqu'ils lisaient les Écritures, et on le voit très bien dans certaines synagogues, lorsque le Seigneur est là, on regardait Jésus et on essayait de voir ce qu'il allait dire pour le prendre au piège. Vous voyez ? Et certains peuvent employer, et parfois on peut avoir un contexte intérieur qui me dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne vas pas au travers de ta parole ? Et c'est parce que tu me sondes, tu me connais. Comme pour me prendre au piège, comme pour me faire tomber, comme si c'était une pierre qui allait tomber sur mon cœur et me faire défaillir. Me rappeler mon péché. Ah ben le Seigneur est capable de nous rappeler nos péchés, ça c'est sûr. Vous savez, lorsque le paralytique a été descendu devant le Seigneur, Matthieu 8, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez ce texte, la première des choses que le Seigneur dit à cet homme qui est malade, « Mon enfant, tes péchés, il parle de ses péchés, alors qu'il est malade, mais tes péchés sont pardonnés. » Alléluia ! Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, dit-il, a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Amen. Et il lui dit, lève-toi et marche. Amen. C'est-à-dire que même si cela a réveillé un passé douloureux, le Seigneur apporte quand même la victoire et il remet en marche la vie d'un homme qui était arrêté. Alléluia. Et je crois qu'on a besoin aussi, à chaque fois que nous lisons les Écritures, que nous prenons la parole de Dieu, de nous dire, Seigneur, en fait, tu veux que j'avance avec toi. Pas de n'importe quelle manière, non pas d'une manière avec des compromis, non pas d'une façon charnelle, mais l'Écriture m'apprend quand même que même si quelqu'un s'est trompé, le Seigneur le reprend pour le faire marcher dans des voies droites. J'ai noté dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 2, « Reprend, censure, exhorte », dit Paul à Timothée, « Prêche en toute occasion, favorable ou non », reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Reprend, ça veut dire tu t'y prends mal, c'est pas comme ça, comme Abraham. Abraham, c'est pas comme ça là. Et qu'est-ce que c'est cette histoire avec Agar? Tu mélanges tout, t'es pas droit. Non, non, tu dois marcher en étant intègre. Censure, ça veut dire ça, c'est interdit. On mélange pas le péché. Exemple 1 Corinthiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est cette histoire? J'emploie mes mots. L'apôtre Paul, vous allez voir des prostituées. et parce que vous dites que ça touche votre corps, ça touche pas votre âme. Mais qu'est-ce que c'est ? Votre corps tout entier, votre être, corps, âme et esprit, appartiennent au Seigneur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia ! Donc censure, ça c'est interdit. Et puis, je t'encourage, par exemple, Timothée, allez, tu as un caractère timide, mais le Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il veut te faire aller de l'avant, il veut te faire grandir, il veut te faire progresser. Alléluia ! Amen ! Gloire à Dieu. Et l'Écriture continue en disant « avec toute douceur et en enseignant », c'est-à-dire en expliquant pourquoi. Amen. Et je voudrais que nous puissions dire « Seigneur, eh bien tu veux que j'avance, Seigneur. Cette bonne nouvelle, c'est que tu peux t'approcher de Dieu avec assurance. » Amen. Même toi qui es dans la tempête, peut-être tu traverses une tempête et tu te dis « Mais est-ce que je vais réussir à surmonter cette tempête ? Est-ce que je vais réussir à aller de l'avant ?» Mais la bonne nouvelle, oui, mais bien sûr. Souvenez de Pierre qui dira dans la tempête, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Vous vous souvenez de ça ? Qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur ? Il lui dit, « Non, c'est trop dur pour toi, t'as pas cette foi, t'es encore au balbutiement, tu en sais pas assez, il faut d'abord que tu attendes que Paul ait écrit l'Épître aux Romains pour la lire, etc. » Non, il lui dit pas ça. Il lui dit, « Viens !» Et l'Écriture nous dit, que Pierre, quel courage quand même, il met les pieds hors de la barque et il marche sur l'eau. Bon, il va, au bout d'un moment, il va couler, hein, on connaît la suite, mais Jésus lui dit, viens, alléluia, tout est possible à celui qui croit. Un vieux pasteur disait ceci, en réalité, je voudrais le laisser sur votre cœur, Pierre n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait avancer. Alléluia. Et je voudrais te dire ceci. Le Seigneur veut t'encourager. Alléluia. À marcher avec lui. L'Église s'édifie. On est là pour bâtir. Mais la parole de Dieu est là pour nous faire avancer avec lui. Amen. Je termine. Dernier encouragement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on termine ? Non, vous n'êtes pas d'accord qu'on termine. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on va continuer. Hein. On connaît des prédications qui ont duré longtemps dans la Bible, François. Hein ? Actes chapitre 15. Et le verset 30, il nous est dit ceci, il y a eu une controverse dans l'Église, parce que ce contexte, c'est celui-ci, tu n'es pas sauvé parce que tu ne mets pas en pratique la loi, tu n'es pas circoncis, etc. Tu n'es pas juif, bon, beaucoup de voilà. Et on a répondu à ces questions en remettant en évidence... Eh bien que notre salut, il ne dépend pas d'une pratique religieuse, d'un rite. Notre salut, il dépend de Jésus. Et on n'a rien à ajouter à ce que le Seigneur a fait. Tout a été accompli par lui à la croix. Alléluia. Et puis de dire que l'Église, ce n'est pas un club privé. Ce n'est pas un groupe de gens qui restent entre soi comme ça parce qu'on s'apprécie. Non, non. Le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Qu'ils viennent d'Atlanta, qu'ils viennent d'ailleurs, le Seigneur les aime. Alléluia. Et il nous est dit ceci, acte 15 et le verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, donc avec une bonne nouvelle, où ils remirent la lettre à la multitude, cette lettre qui venait d'être écrite et qui leur annonçait que, eh bien, pour marcher avec le Seigneur, il fallait, eh bien, placer sa foi en Jésus, garder faire attention à son témoignage, mais ne pas vivre sous un joug qui nous empêche eh bien, de vivre librement avec le Seigneur. Et après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait, et Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Et j'ai l'impression que, en fait, je vous parle d'encouragement depuis tout à l'heure, mais à chaque fois qu'il y a besoin d'encourager, de renouveler un encouragement, de renouveler une consolation, le Seigneur le fait. Il répète ses encouragements. Il réaffirme. Et il ne cesse jamais eh bien, d'encourager. Et lorsque l'apôtre Paul et Barnabas, à ce moment-là, eh bien, se sont trouvés face à ces hommes qui disaient « Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. » Annexe la petite parenthèse, c'est excluer une grande partie de l'Église, parce que, jusqu'à preuve de contraire, les seuls qui peuvent être circoncis, ce sont des hommes. Vous savez que... Bah oui, mais c'est important. Vous savez que ça c'est la sociologie de l'Église des premiers temps. Une des grandes des proportions de du peuple de Dieu, de l'Église, était constituée de femmes. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire, eh bien, il existait un geste qui faisait que les femmes étaient invitées à s'approcher, invitées au salut, de la même manière que les hommes. Il n'y a aucune différence. Et vous savez que ce geste, vous vous souvenez, Matthieu 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et pour être baptisé, bon, tu peux être un homme, tu peux être une femme, c'est la même chose. Alléluia ! Amen ! Et on s'aperçoit que, eh bien, combien le Seigneur est grand et bon, alléluia, il met personne de côté, gloire à Dieu. Et là, il y avait comme un retour en arrière. Et en plus, une dépendance, une mise sous une culpabilité, sous un joug qui pesait encore sur le cœur des disciples, sur le cœur des enfants de Dieu. Et voici que Paul va se lever. Cette affaire, on ne va pas la laisser traîner. On ne va pas laisser l'Église vivre sous un joug étranger, la transformer dans un espèce de club privé. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Et l'Écriture nous indique, et je vous invite à relire eh bien, le chapitre eh bien, d'Acte 15, eh bien, pour vous faire comprendre eh bien, combien le Seigneur a parlé. Et il dira, eh bien, sera écrit dans cette fameuse lettre, « Il a paru bon au Saint-Esprit » et à nous, alléluia. C'est-à-dire que cette lettre a été une lettre de consolation, d'encouragement, mais comme la lettre d'un avocat qui prend défense pour soutenir la foi eh bien, de l'Église de Christ. Amen. Et pour lui dire, d'où que tu viennes, qui que tu sois, eh bien, ton origine compte peu aux yeux du Seigneur. Ce qui compte, c'est que tu sois devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais terminé en disant, Dieu a employé eh bien, diverses personnes et on s'aperçoit que la consolation s'est incarnée. Des hommes ont porté cette consolation, ont été des consolateurs. Et dans ces temps même de vacances, où on est un petit peu, voilà, par la force des choses, des événements, faisons en sorte que personne ne soit seul et que nous puissions être, pour nos frères, pour nos sœurs, des consolateurs. Je ne sais pas si le mot encourageur, ça existe, voilà, mais je le dis. Mais que nous puissions être de ces hommes et de ces femmes eh bien, qui sont là pour relever. Et peut-être qu'au travers de cette prédication, humblement, un frère, une sœur reprend courage. Alléluia, en disant, Seigneur, je veux marcher avec toi. Tu ne m'as pas mis de côté. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, tu es mon consolateur et tu veux que j'avance. Vous voulez bien qu'on prie ensemble, alléluia, qu'on demande... Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta bonté, pour ton amour. Et je veux te louer, Seigneur, pour Seigneur, ton œuvre à la croix du calvaire. Et combien à chaque fois, Seigneur, mon Dieu, que nous en avons eu besoin, tu es celui qui nous a encouragés. Seigneur, je veux me souvenir de ce que le prophète disait, que tes bontés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Tu sais combien, Seigneur, l'homme, la femme, Seigneur, mon Dieu, a besoin d'être renouvelé, d'être relevé, d'être encouragé, d'être édifié, de savoir que tu es avec lui jour après jour. Alléluia. Et Seigneur, mon Dieu, tu nous le montres, Seigneur, mon Dieu, par l'action de ton Saint-Esprit, par l'action, Seigneur, de la manifestation du Saint-Esprit, mais aussi, Seigneur, au travers de frères, de sœurs, qui comme Barnabas, Paul, Seigneur, deviennent des consolateurs. Seigneur, comme toi, Seigneur Jésus, Seigneur, parce que tu es venu sur cette terre et tu t'es approché de celles et ceux qui étaient, Seigneur, découragés, délaissés, abandonnés. Et Seigneur, tu as mis la vie, alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, à toi la gloire. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, peut-être y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui dit, mais moi je me sens, je suis découragé. Peut-être quelqu'un qui vit un temps de, comme de relâchement, de... Et je crois que le Seigneur veut te relever également. Et je crois que le Saint-Esprit est capable de le faire. Il s'intéresse à toi, à tes problèmes. Et puis, tu peux tout lui confier, t'appuyer sur lui. Alors si ce matin, quelqu'un voudrait que l'on prie pour lui, pour elle, qu'il a besoin d'être relevé, bien vous levez votre main à votre place en disant, voilà, j'ai